Alléluia. Croyons ce que nous chantons.
Jésus, c'est le plus grand.
Parole de vie, Seigneur. Alléluia. Et tu veux nous vivifier au travers de ta parole, car tes paroles sont esprit et vie. Et tu veux nous faire du bien, tu veux nous édifier, tu veux nous exhorter, tu veux nous consoler, tu veux nous délivrer, tu veux nous guérir au travers de ta parole. Seigneur, tu es le Dieu de la résurrection. Alléluia. Et de la vie.
Alléluia.
Et nous te célébrons, nous exaltons ton nom glorieux, ta victoire sur la mort, le péché, l'enfer et les puissances des ténèbres. Tu as vaincu Satan pour l'éternité.
Alléluia.
Tu nous as délivrés de son emprise.
Alléluia.
Et tu as fait de nous des enfants de Dieu. Assis avec toi dans les lieux célestes, pour toujours ton peuple bien-aimé, pour te servir et te contempler. Alléluia. Tu nous as rendus libres par le sang qui a versé à la croix. Nous sommes un peuple racheté par la foi et par la grâce. Alléluia. Oui, que ton cœur se réjouisse pendant cette journée et que tu te rassasies du travail de ton âme. Seigneur, que tu n'aies pas souffert en vain, mais qu'au contraire, nous puissions entrer dans l'héritage qui est à nous afin de te glorifier et de t'honorer ici-bas. Gloire, honneur, et louange à notre Dieu. Amen.
Amen.
Alléluia. Alléluia. Nous ouvrons cette parole de vie dans l'Apocalypse au chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire encore ce matin. Ne pleure point. Il y a quelqu'un qui a une solution pour toi, qui a un remède pour toi. Il y a quelqu'un. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alléluia. Alléluia. C'est lorsqu'on vient avec la prière et l'adoration dans notre cœur que nos larmes sont séchées. Alléluia. Dieu sèche les larmes de ceux qui viennent dans l'adoration devant lui. chanter un cantique nouveau et en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. » Voyez-vous, pour Dieu. Tous les rachetés sont pour Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Alléluia. Ils n'appartiennent à aucune autre personne, à aucune autre religion, à aucun autre mouvement, à aucune personne. Ils appartiennent à Dieu. Alléluia. Vous êtes le peuple de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux cela? Alléluia. Vous êtes racheté à un grand prix, racheté par le sang de l'agneau. Vous avez le sceau de Dieu sur vous. Alléluia. Vous êtes les enfants de Dieu pour l'éternité, rachetés par son sang. N'est-ce pas merveilleux? Il les a rachetés pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, même des Français, même des Suisses, même des Belges, même des gens de Chambéry, de Grenoble, de Lyon, de je ne sais où. Oui, de toute nation il y en aura. Alléluia! Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Alléluia! Je trouve que c'est formidable de savoir que nous serons là-haut des myriades et des myriades. Ici, nous sommes quelques-uns. Quelques-uns, mais là-haut, 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 nous serons innombrables. On ne pourra pas compter ceux qui seront là-haut. Alléluia. Il y a des fois, on est découragé ici-bas. On se dit, on est peu de chrétiens. On n'est pas bien nombreux. Mais ce n'est pas cette vision qu'il faut avoir. Car bien souvent ici, même ici-bas, le nombre trompe. Nous pouvons être trompés par le nombre, même ici-bas. Ce n'est pas le nombre ici-bas qui compte, c'est le nombre en haut. Alléluia. Car ceux qui sont là-haut, ce sont les vrais. Ce sont ceux qui ont vaincu par le sang de l'agneau. Alléluia. Seras-tu de ce nombre? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il disait d'une voix forte. Voyez-vous, je peux parler un peu d'une voix forte aussi. Il disait d'une voix forte. Il disait d'une voix forte. Voyez, je serais un peu à ma place au ciel. En tout cas, je ne serais pas dépaysé. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la puissance, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Gloire à son nom. Alléluia. Il n'y a qu'une personne qui compte dans le ciel, c'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. Et il n'y a qu'une personne qui doit compter sur cette terre, c'est l'agneau de Dieu. Alléluia. Il n'y a que lui, car lui seul est digne, il est digne. Et pourquoi est-il digne? Parce qu'il a été immolé, parce qu'il a payé de sa vie, il a donné sa vie, son sang pour nous purifier. Il a été jusqu'au bout et ayant aimé les siens, il mit le comble à son amour pour eux, en se livrant pour eux, en se donnant pour eux. La preuve que Dieu t'aime, c'est qu'il s'est donné pour toi. Alléluia. Bien souvent, nous nous demandons si Dieu nous aime, et même des chrétiens se demandent si Dieu les aime. Mais la plus grande preuve que Dieu t'aime, c'est qu'il a donné sa vie pour toi. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que la mort de Jésus-Christ pour nous. Alléluia. Sache ce matin que tu es aimé. Un des besoins fondamentaux de l'homme aujourd'hui, vous le savez comme moi, c'est d'être aimé. C'est d'être aimé. Il n'y a pas besoin d'aller dans le monde et se souiller dans le péché pour aller être aimé. Des multitudes se vautrent dans le péché pour rechercher ce sentiment d'être aimé. Il est vrai que pour un temps, il semble que nous sommes aimés. Mais les fruits sont malheureusement amers de cet amour, n'est-ce pas vrai? Et je pense que nous avons tous expérimenté cela, que le monde ne peut pas nous offrir le véritable amour. Le monde est un peu comme une abeille, ou comme le diable, si vous voulez. Ah, d'abord, il vous offre toujours un petit peu de miel. Et il vous dit, tu vois bien que c'est bon, tu vois bien que c'est bon, tu peux continuer, tu peux t'amuser. C'est bon, je te donne du miel. Mais après le miel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le dard par derrière. Et au bout d'un certain temps, après vous avoir donné le miel, il ne va surtout pas vous oublier pour vous donner autre chose. La mort, la séparation d'avec Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être séparés de Dieu. Jésus sur la croix a subi ce châtiment quand il s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sur cette croix, il a goûté la mort pour nous, afin que nous soyons nous délivrés de la mort éternelle et que nous soyons un jour pour toujours avec lui. Alléluia! Il a goûté la mort afin que nous ne la goûtions plus jamais, que nous soyons délivrés de la crainte de la mort. Oui, il y a deux besoins. Il y a le besoin d'être aimé, et Jésus l'a prouvé en donnant sa vie pour nous. Il y a aussi cet autre besoin, ce besoin d'être délivré de la crainte de la mort. C'est un besoin qui est là dans le cœur de l'homme. La Bible dit que les hommes sont sous l'esclavage de la mort, de la crainte de la mort. Et c'est pourquoi la multitude court après toutes sortes de religions hindoues, païennes, pour essayer de trouver un remède à cette mort. Mais Pâques est la réponse à la mort. Alléluia.
Alléluia.
Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Christ, en ressuscitant des morts, a pour toujours détruit et vaincu la mort. Alléluia. C'est pourquoi, comme il a été dit tout à l'heure, oui, notre espérance est d'être un jour avec Jésus. Alléluia. Un jour, nous le contemplerons. Un jour, nous serons avec lui. Chers amis, Pâques, c'est le message de l'espérance. Il y a tant de choses que nous entendons ici-bas. Tant de choses qui nous découragent, tant de choses, même les chrétiens, on est facilement contaminés par l'esprit de ce monde. On parle comme le monde, on regarde comme le monde, on fait tout comme le monde, et voilà pourquoi nous perdons espoir. Mais nous n'avons pas besoin de désespérer. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. L'apôtre disait, je ne veux pas que vous vous désespériez comme les autres, que vous perdiez courage, qui n'ont pas d'espérance dans ce monde. Nous avons une espérance.
Alléluia.
Alléluia. Ah, naturellement, si tu as ton espérance ici-bas, ça c'est autre chose. Même les chrétiens ont leur espérance ici-bas, ont leur espérance dans leur porte-monnaie, ont leur espérance dans leur maison, ont leur espérance dans leur titre ici-bas, dans leur diplôme. Savez-vous que ça existe aussi? Ah, pour eux, ce serait une catastrophe de mourir. Pour eux, ce serait une catastrophe de partir, car ils ont tout fait pour bâtir ici-bas. Mais l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie et la mort m'est un. Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Et la mort m'est un.
Bien.
Mais vous rendez compte? Mais Paul, tu ne sauras pas, ça va pas du tout. Christ est ma vie, tu dis, d'accord. Mais que la mort soit un gain, ce n'est pas possible. Moi, je peux dire que Christ est ma vie, mais je ne peux pas dire que la mort m'est un gain. Oui, la mort est un gain. Et je crois plus que jamais le message de la résurrection et le message de l'espérance. Oui, ce monde ira à un jugement, mais l'Église, les vrais chrétiens, ne sont pas en route vers le jugement. Ils sont en route vers l'espérance glorieuse.
Alléluia.
Alléluia. Et le Seigneur attend des hommes et des femmes qui aient les bras levés. Oui, nous attendons le Maître. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous verrez ces choses, lorsqu'il y aura des tribulations, des angoisses, lorsque les hommes seront saisis comme ivres par la crainte, ne vous découragez pas, relevez vos têtes, car votre délivrance approche. Alléluia. Oh, vous auriez pu dire Alléluia un peu plus fort. Je trouve que c'est pas assez fort. C'est justifié, il parlait d'une voix forte. Vous savez, c'est prophétique, ça. Vous êtes dans ce nombre-là si vous êtes du Seigneur. Ah, ça, c'est pas mal. Vous êtes dans ce nombre-là si vous êtes du Seigneur. Mais vous
vous allez dire Alléluia.
Alléluia.
Vous n'avez certainement pas bien compris. Vous êtes dans ce nombre-là,
Alléluia.
Si vous êtes du Seigneur. Ils crièrent d'une voix forte, l'ange aussi, puis les autres aussi. Il n'y a pas que l'ange, hein, il y a tout le monde. Je crois que nous devons réaliser comme tout à nouveau la puissance de la résurrection et ne pas être comme Marie de Magdala qui pleurait et qui ne savait pas que son sauveur était ressuscité. Et je crois que beaucoup de chrétiens sont encore comme cela. Il est ressuscité. Même si le Seigneur viendrait parler avec eux, vous savez, quand on est vraiment déprimé, découragé, quand on a constamment nos regards sur nos problèmes, même si Jésus vient pour vous bénir, vous le prenez pour le jardinier. Comme a fait Marie. Elle croyait que c'était le jardinier. Voyez-vous, on est complètement faussé. Dieu agit au milieu de nous, Jésus est là. Tu vois, c'est le jardinier. Ah bon? Tu as vu Jésus, toi? Moi, j'ai rien vu du tout. Un jardinier, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Un jardinier est fait là, est fait pour enjoliver un peu les cimetières. Mais Jésus n'est pas un jardinier pour venir orner la mort. Il n'est pas venu pour rendre la mort belle. Il est venu pour vaincre la mort, triompher de la mort. Alléluia. Il y a une espérance, il y a une espérance. Oui, réjouissons-nous davantage. Et veillons surtout, oh je sais que cela c'est un combat, n'est-ce pas? C'est un combat, mais réjouissons-nous davantage de l'espérance qui nous attend. Et je crois que plus que jamais, le Seigneur est proche. Vous y croyez?
Amen.
Plus que jamais, plus que jamais, plus que jamais. Ne mettons pas notre affection ici-bas. Pourquoi se nous décourager ici? Pourquoi bien souvent les chrétiens sont découragés? Parce qu'ils s'attachent trop aux choses de la terre. Trop aux choses de la terre. Oui, il faut vivre sur cette terre, d'accord, mais nous n'y mettons pas notre cœur. Il revient bientôt, notre cité à nous est dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux. Alléluia. Réjouissons-nous, chers amis. Alléluia. Christ est ressuscité. Et quand Marie a découvert qu'il n'était pas le jardinier, alors c'était formidable. Elle s'est courbée aux pieds du maître. Et a commencé à adorer. Et ensuite, elle a été la première à annoncer ce message qu'il est réellement ressuscité. Comment? Alors là, maintenant, c'est elle qu'on la prend pour une folle elle-même. Oui, croire le message de la résurrection aujourd'hui vous fait passer pour des fous. N'est-ce pas vrai? On peut dire Alléluia quand même. Alléluia, ça c'est le message de l'espérance. Et tous ceux qui croient à la résurrection passeront pour des fous. C'est à la mode aujourd'hui de croire non pas à l'incarnation, mais à la réincarnation. Et la réincarnation est la contre-vérité du diable à la résurrection. Le diable veut voiler la vérité de la résurrection au monde et lui dit: la résurrection, c'est une folie. Ça, ça ne dit pas. Mais la réincarnation, oui, ça, c'est vrai. Si tu meurs, tu continueras de vivre dans un petit rat. Voilà l'espérance qu'on nous donne. Finir dans un petit rat. Dites-moi un petit peu, vous croyez que c'est ça une belle espérance? Alors, comment voulez-vous que le monde le tienne? Et même le monde est prêt à accepter une telle folie. Si le monde est prêt à accepter une telle folie, pourquoi nous, est-ce que nous ne croirions pas à la plus belle des folies, à la plus sage des folies, à la folie qui est plus sage que la sagesse des hommes, à la folie de la prédication, à la folie de la résurrection? Oui, réjouissons-nous, je crois que ce matin, il nous faut nous réjouir davantage. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi es-tu triste? Le Seigneur comprend ta tristesse. Le Seigneur agit avec beaucoup de tact avec Marie. Il n'est pas venu avec un coup de massue pour dire « Tu piges rien du tout, toi tu comprends rien du tout. » Non, il est venu avec beaucoup de tact, beaucoup de tact. Et vous savez comment Jésus a touché le cœur de Marie? En disant
un seul mot. Et quel était ce mot? C'était son nom. Marie. Et quand elle a entendu ça, des cordes sensibles ont été touchées dans le fond d'elle-même. Mais j'ai déjà entendu cette voix. Ah, vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Il y a des choses qui peuvent être mises de côté, mais elles ne peuvent jamais être oubliées. Alléluia. Et tout à coup, elle est sortie de sa dépression. Elle s'est rappelée Jésus. Elle s'est rappelée que Jésus était vivant. Elle s'est aussi rappelée que tout ce que Jésus avait fait pour elle. Et en un seul mot, il y a eu une véritable révolution en elle. Elle a pensé à tout ce que Jésus avait fait dans sa vie, en un seul mot. Marie, cela voulait dire que je ne t'ai pas oublié. Tu es ma brebis. Tu n'as pas compris certaines choses. Mais moi, je t'aime encore. Et je t'aimerai toujours. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et le Seigneur vous dit, rappelle-toi un peu tout ce que j'ai fait pour toi. Pour sortir du découragement, il faut se rappeler aussi tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Rappelez-vous, quand Jésus a dit Marie, ah, c'était les beaux souvenirs. C'était les beaux souvenirs. C'était une femme qui avait été délivrée de combien de démons? 7 démons. Alors elle savait que cet homme était son seul libérateur. Il n'y avait que lui qui l'avait délivrée, que lui qui pouvait l'aimer, parce que non seulement elle était liée, mais elle était aussi rejetée. Possédée par 7 démons, elle était rejetée par la société. Mais pour elle, Jésus était celui qui l'avait aimée. Jésus était celui qui l'aimait encore. Jésus n'aimait pas, bien sûr, cet ennemi qui était en elle. C'est pourquoi il l'a chassée. Mais il a su que ce Jésus était le vrai Jésus. Le vrai, parce qu'il était venu pour la délivrer. Et ce Jésus-là, à un moment donné, elle a cru qu'il était mort. Mais voilà qu'il n'était pas mort. Il est réellement ressuscité. Alléluia. Si tu crois que Jésus t'a abandonné, si tu crois que Jésus ne pense plus à toi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il t'aime encore, il est là. Rappelle-toi seulement. Rappelle-toi tout ce qu'il a fait dans ta vie. Veux-tu t'en souvenir? Veux-tu? Veux-tu? Personne ne peut dire ici qu'il n'a pas été béni par le Seigneur. Personne. Personne. Rappelle-toi tout ce qu'il a fait pour toi. Et tu verras cette espérance renaître en toi. Alléluia! Et tu pourras ainsi glorifier le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je crois que je vais terminer maintenant. Et nous allons faire une chose. Nous allons nous lever et nous allons confesser que Christ est ressuscité.
Amen.
Et vous allez saluer au moins 2 personnes maintenant. Vous allez vous lever et dire, Christ est ressuscité. Alléluia. Allez-y. Alléluia. Christ est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Et s'il est ressuscité, il est là ce matin. Alléluia. Il est ressuscité. Il a tout pouvoir. Gloire à son Saint-Nom. Il est vraiment ressuscité. N'ayons pas peur d'exprimer notre joie et notre espérance. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et nous allons chanter Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Alléluia. Merci Seigneur. Donnons-nous tous la main en chantant cela. Donnons-nous la main. Car nous formons tous une famille dans le Seigneur. Rachetés par le sang de Jésus. Alléluia.
Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur.
encore une fois.
Jésus-Christ.
Alléluia.
Dans cet esprit de foi. Et cet après-midi, nous aurons plus de temps pour prier pour tous ceux qui le désirent. Cet après-midi est l'après-midi de la délivrance. Alléluia. À cause de la résurrection de Jésus, nous nous attendons à lui. Que son nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Nous allons terminer dans la prière. Et je vais demander à mon frère Brillant Dupont de terminer dans la prière.
Amen.
Alléluia. Gloire à ton nom.
Et dans ta présence.
Oh,
alléluia. Béni soit ton nom.
Oh, merci, Seigneur.
Exaltons ton nom.
Amen. Alléluia. Merveilleux, Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia.
Merci pour ta parole.
Amen.
La phase 1 est terminée. Veuillez tourner la cassette, s'il vous plaît.
Merveilleux Sauveur, le Roi de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie. Parole de vie.
Alléluia. Que son nom soit béni. C'est cela, un culte en esprit et en vérité. Nous venons avant tout au culte pour apporter notre amour et notre louange, n'est-ce pas vrai? On vient pour apporter et non pour recevoir. Mais écoutez-moi bien, celui qui apporte reçoit toujours. Alléluia. Celui qui apporte reçoit toujours. C'est cela le culte. Gloire à son beau nom. Jamais vous ne regretterez d'avoir trop loué le Seigneur. Jamais, jamais. Et à un moment donné, on a même de la peine à s'arrêter, n'est-ce pas vrai? J'ai même de la peine à vous donner mon message. Je me demande s'il faut continuer à louer ou s'il faut donner quelques paroles. Je crois qu'il faut quand même donner quelques paroles maintenant. L'esprit. l'esprit de la Pentecôte, aujourd'hui est le jour de Pentecôte. Qu'est-ce que l'esprit de Pentecôte? Je lis dans les Actes des Apôtres, lorsque tous les apôtres furent remplis du Saint-Esprit dans Actes 2, il est dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, verset 4, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ensuite, il y avait au bruit de la foule, au bruit qui eut lieu, la multitude courut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et il disait, comment les entendons-nous parler dans notre langue à chacun? Et au verset 11, il est dit, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Écoutez bien, cela est très important, car c'est là-dessus que je voudrais vous dire quelques mots. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Quelle est la première chose qui s'est passé lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les premiers disciples? Quelle est la première chose qu'ils ont fait? Était-ce de témoigner? Était-ce de prêcher? La première chose que les disciples et les apôtres ont fait lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveille de Dieu. La première chose que le Saint-Esprit fait lorsqu'il entre dans une vie, c'est de glorifier Dieu, d'adorer Dieu. Alléluia! D'adorer Dieu, c'est la première chose. Le premier ministère du chrétien est l'adoration. Alléluia! Alléluia! C'est le premier ministère. Et ce ministère l'a confié à tous les chrétiens. Beaucoup disent, mais moi je n'ai pas de ministère, moi je n'ai pas la parole facile. J'ai la langue facile, mais je n'ai pas la parole facile. Vous comprenez un peu ma petite distinction? Il y en a qui ont la parole facile, qui n'ont pas la parole facile, mais la langue elle est un peu... Mais même si tu n'as pas la parole facile, même si tu n'as pas un ministère public, Dieu a donné à chacun d'entre nous ici un ministère privé, personnel, pour Jésus. Pour l'adorer, car Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et savez-vous que lorsque vous remplissez bien ce ministère, alors Dieu vous rendra capable d'accomplir convenablement votre ministère devant les hommes. Voilà pourquoi tant de chrétiens sont faibles et manquent de puissance parce qu'ils ne pensent qu'à servir leurs frères ou les hommes. Ils n'ont que cela en tête, c'est bien, mais cela a sa place. Comment pouvez-vous servir sans avoir premièrement adoré le Seigneur? La première des choses que Dieu demande, c'est l'adoration. Alléluia! Car dans l'adoration, vous êtes comme branché avec la puissance divine. N'avez-vous pas ressenti la présence de Dieu, chers amis? En adorant le Seigneur, dites-moi, n'avez-vous pas ressenti la présence de Dieu? Il n'y a rien de tel pour ressentir cette présence. Mais écoutez-moi bien, ce n'est pas seulement pendant une convention que vous devez ressentir cette présence. À la maison, vous pouvez faire cela. Chez vous, oh, je vous en prie, adorez davantage, passez du temps que pour Jésus seul, que pour lui. Alléluia, que pour lui. Quelqu'un a dit un jour, dans la prière, nous sommes occupés de nos besoins. Dans l'action de grâce, nous sommes occupés de nos bénédictions. Mais dans l'adoration, nous sommes occupés de Dieu et de Dieu seul. Alléluia. C'était le moment de dire alléluia. Si vous n'avez pas bien compris, je répète. Je trouve que c'est formidable et ça fait bien la distinction entre ce qui est l'adoration, l'action de grâce et la prière. Car pour beaucoup,
adorer, ça veut dire un peu n'importe quoi. Et tout ce qu'on fait, c'est adorer. Non, non, non. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui n'est pas de l'adoration selon le terme biblique. Prier n'est pas adorer. Rendre grâce n'est pas adorer. Adorer, c'est tout à fait autre chose. Je répète, dans la prière, nous sommes occupés de nos besoins. Dieu veut qu'on prie, n'est-ce pas? Ne pensez pas que maintenant, il ne faut plus prier. C'est insensé. Il faut prier. Il y a tant d'exhortations à la prière, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Mais il faut faire ces différences. Je vous en supplie, c'est très important. Dans la prière, nous sommes occupés de nos besoins. Dans l'action de grâce, de nos bénédictions. Merci Seigneur, tu m'as béni, tu m'as guéri, tu m'as sauvé. Tu as béni ma petite femme, mon petit mari, mes enfants. Seigneur, tu es merveilleux. C'est bien, c'est l'action de grâce. Il faut cela. Mais il y a quelque chose de plus. Et peu de chrétiens entrent véritablement dans cette nouvelle dimension où ils entrent seulement, oui, quand ils sont dans une convention. Et le reste du temps, ils abandonnent cela. Et voilà pourquoi vous êtes faibles, chers amis. Voilà pourquoi je suis faible aussi. Je le réalise d'une manière si réelle. Lorsque je n'ai plus sur moi cet esprit d'adoration, il me manque quelque chose. J'ai l'impression que je suis privé de quelque chose. Il me semble que je n'ai pas mon manteau. Je n'ai pas le revêtement de puissance. Et quand je n'ai pas mon manteau, j'ai froid. Alléluia. Et quand on a froid, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on est figé, on est paralysé. Et n'avons-nous pas ce sentiment parfois d'être froid? N'est-ce pas vrai? Soyons droits. Combien de fois, parfois, je ressens cette froideur en moi? On est là, on veut bien s'exciter un peu et tout, mais il n'y a rien qui fait. C'est pourquoi, lorsque tu ne ressens pas la présence de Dieu, et qu'il n'y a pas de péché dans ta vie, car cela est très important, car le péché barre la communion avec Dieu, si tu vois que tout est en ordre avec toi et ton Dieu, et ton frère et ton prochain, et que tu ne ressens pas la présence de Dieu, ne te lamente pas. Il y a une chose à faire. Ne te culpabilise pas. Ne pense pas que Dieu ne t'aime pas. Ne dis pas cela est pour les prédicateurs, les missionnaires, pour les uns, pour les autres, un peu qui sont oui, un peu exaltés. Ceux qui ils sont un tempérament chaud. Non, non. Cela est pour chacun d'entre nous, pour tout le monde. Pour tout le monde. Et si tu sais adorer, tu réaliseras cette présence de Dieu. Car dans l'adoration, la présence de Dieu vient. Amen. Et tu peux l'expérimenter ici, à la maison, dans la rue, au travail. Tu peux. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Tu regardes trop à tes sentiments. Tu regardes trop à toi-même. Adore. Car vous savez que l'adoration, c'est la véritable crucifixion du moi. Ah, tu n'adores pas le Seigneur réellement parce que tu penses trop à toi. Avoue-le, c'est tout. Ah, c'est ça. Parce que tu ne peux pas adorer Dieu, penser à Dieu de tout ton cœur et à toi-même en même temps. C'est pas possible. Jésus a dit, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Si tu n'adores pas, c'est que tu penses à toi. C'est que tu es préoccupé de toi-même. Voyez-vous que l'adoration crucifie notre moi. Combien d'entre vous vous dites, Seigneur, oh, je veux bien crucifier mon moi. Oh, Seigneur, je veux bien souffrir même pour que mon moi soit maintenu dans la mort. Oh, Seigneur, combien nous entendons ces prières qui paraissent apparemment spirituelles, mais finalement, on reste toujours les mêmes. Il y a un moyen, plusieurs moyens, naturellement, pour maintenir le moi dans la mort, mais un des moyens les plus merveilleux, c'est l'adoration. Car lorsque tu adores Dieu, tu ne penses plus à toi. Tu ne penses plus à toi. Et cela, nous devons le faire plus souvent, plus souvent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je pense à cette histoire d'Abraham Lincoln qui va bien illustrer le message de l'adoration. Un jour, une vieille dame est allée voir le fameux président Abraham Lincoln. Et elle a pris avec elle un petit sac avec quelque chose dans ce petit sac. Elle l'a pris et elle est allée demander une audience à Monsieur le Président Lincoln. Son tour est arrivé et Abraham Lincoln s'est tourné vers cette vieille maman et lui dit « Maman, ma chère maman, que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'était toujours la question que le président posait à tous ceux qui venaient le voir, n'est-ce pas vrai ? Que veux-tu que je fasse ? On va vers le président pour lui demander. On va toujours comme un mendiant. Alors la question a été posée
Ma chère maman, que veux-tu que je fasse pour toi? Et cette chère maman de déclarer, Monsieur le Président, je ne suis pas venu vous voir pour demander quelque chose. Mais je suis venu pour vous apporter quelque chose. Elle a pris son petit sac, elle l'a ouvert un peu, fébrilement, et elle a sorti un paquet de biscuits dont le président était très friand. Elle connaissait les goûts du président. Et elle a dit, Monsieur le Président, j'ai appris que vous aimiez bien ces petits biscuits et je suis venu pour vous faire plaisir uniquement. Tenez ce paquet de biscuits. Je voulais tout simplement vous faire plaisir. Et quand le président a vu et entendu cela, il a éclaté en sanglots. Les larmes ont coulé de ses yeux. Et il a dit, mais maman, maman, c'est la première fois que quelqu'un entre dans ce bureau ici pour me dire cela. Tous ceux qui sont venus ici sont tous venus et viennent encore pour me demander quelque chose. Je ne leur fais pas le reproche, ils ont des besoins. Mais vous, vous êtes la seule personne qui n'est pas venue d'une manière égoïste. Vous êtes venue pour m'apporter quelque chose et le président de dire, ma chère maman, vous avez profondément touché mon cœur. Vous ne pouvez pas vous imaginer. La maman souriait dans son petit coin. Elle était satisfaite. Elle avait atteint son but. Réjouir et satisfaire le cœur du président. Elle est repartie contente. Alléluia! Voilà une merveilleuse illustration qui nous montre comment nous devons nous approcher de Dieu. Et quels sont les résultats de l'adoration? Le premier résultat de l'adoration, car il y a des résultats, il y a des bénédictions. Le premier résultat, c'est que le cœur de Dieu est satisfait. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Pourquoi n'es-tu pas satisfait? Parce que tu ne satisfais pas le cœur de Dieu. Et tant que tu ne satisfais pas le cœur de ton Dieu par ton adoration, le Seigneur ne demande pas beaucoup, chers amis, mais il demande le meilleur de toi-même. Ce qu'il demande, c'est ton adoration. Et lorsque tu auras découvert que par ton adoration, tu peux satisfaire le cœur de ton Dieu, alors, et alors seulement, tu seras satisfait. Toi-même. Alléluia. Et c'est là le deuxième résultat de l'adoration. Premièrement, le cœur de Dieu est satisfait. Notre Père cherche de vrais adorateurs. Il en cherche parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il en cherche. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui réellement adorent Dieu et ne sont perdus que dans sa présence et ne pense qu'à lui, il n'y en a pas beaucoup. Mais veux-tu être de ce nombre-là? Alléluia! Et je t'assure que si tu es un bon adorateur, tu seras un bon serviteur. Amen! Car les véritables serviteurs, ce sont ceux qui se tiennent devant Dieu. Alléluia! Pensez à l'ange Gabriel. L'ange Gabriel! Alléluia! Quand il a été envoyé, il s'est présenté en disant, « Je me tiens devant l'Éternel. » Et j'ai été envoyé par lui parce que je me tiens devant lui. Tous ceux qui se tiennent devant lui auront tôt ou tard un message à annoncer au nom de Jésus. Amen! Car c'est dans sa présence que Dieu te parlera. C'est dans sa présence que Dieu viendra à toi et te donnera le message dont tu as besoin et dont le monde a besoin. Alléluia! Oh, chers amis, premièrement, le premier résultat de l'adoration, Dieu est satisfait. Ensuite, mon cœur est satisfait. Avez-vous remarqué ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte? Tu me rempliras de joie par ta présence. Oh, quel rassasiement de joie! Le psaume 16 nous dit, Il y a d'abondantes joies dans ta présence et des délices éternels à ta droite. Alléluia! Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? Mais c'est dans sa présence. Il faut s'attarder dans sa présence. Chers amis, prenez du temps, prenez du temps, prenons du temps. Ce n'est pas du temps perdu, ne l'oubliez pas qu'à la Pentecôte, ils ont dû passer 12 jours dans la présence de Dieu. Mais alors, quel effet, quelle puissance, quelle manifestation de la gloire de Dieu. On vient un temps un peu de presse-bouton. On veut tout de suite, oh Seigneur, si tu ne bénis pas tout de suite maintenant, alors ça va pas du tout. Ça, Seigneur, j'abandonne tout. Il y a combien de chrétiens qui abandonnent tout maintenant, facilement? Et ce qui m'étonne encore plus, ce sont même des chrétiens baptisés dans le Saint-Esprit qui abandonnent très facilement le Seigneur. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce qu'il n'y a pas vraiment un don total de soi-même. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, on peut le recevoir comme un don. C'est un don gratuit. Si tu crois, tu peux le recevoir. Mais pourquoi est-ce que certains le perdent facilement? Parce qu'il n'y a pas le don de soi-même. On ne vient que pour mendier devant Dieu. On veut bien que Dieu nous bénisse, nous bénisse, nous bénisse. Mais le jour où il faut le suivre sur le chemin de la croix, le jour où il faut le suivre alors que tout le monde est contre nous, ah, il n'y a plus personne, ah, il n'y a plus personne. Où étais-tu, toi qui louais bien le Seigneur à la Pentecôte? Toi qui le louais bien, où es-tu maintenant? Où es-tu? C'est une tragédie. Il n'y a pas de profondeur. Même des chrétiens baptisés dans le Saint-Esprit sont comme ceux du monde. Il n'y a pas de différence. Comment voulez-vous qu'on fasse un impact sur le monde? C'est impossible. On cherche encore notre satisfaction dans les choses de ce monde. J'ai vomi pour toujours ce qui est du monde. Tu n'en es pas encore dégoûté? Alors tu vas peut-être faire de tristes expériences. Il faut peut-être que tu passes par là, que tu réalises ce dégoût du monde. Car le monde n'apporte rien que dégoût, n'est-ce pas vrai? Il n'y a rien. Mais il y a des délices éternels à sa droite. Oh, ne crois pas ce que le diable te dit. Moi, c'est ce qu'il a voulu me dire, le diable. Quand le jour où tu te donneras au Seigneur, eh bien, tu seras le plus malheureux des jeunes garçons, des jeunes hommes. Enfin, j'avais 20 ans à ce moment-là. Je ne vous dirai pas mon âge maintenant, mais j'avais 20 ans, et le diable voulait me faire croire. Ah, si tu donnes ton cœur au Seigneur, mais c'est fini, il n'y a plus de joie pour toi, il n'y a plus de vie réelle. Tu vas cesser de vivre. Tu vas cesser de jouir pleinement de la vie. Quel menteur! Quel menteur! Et dans le fond de mon cœur, je lui dis, tais-toi, menteur! Tais-toi, Satan, tu es un menteur! Tu veux me dire que je ne vais plus jouir de la vie? Mais ça fait 20 ans que je suis à ton service, et ça fait 20 ans que je ne jouis pas de la vie! Ah, quand je lui ai dit cela, la bouche était fermée, il n'est plus venu me voir. Ah, il est revenu après pour autre chose, mais à ce moment-là, c'était fini. Ah, je lui ai bien dit, comment? Menteur! Tu es un menteur! Comment? Je ne vais pas jouir de la vie, mais avec tout ce que j'ai goûté dans ce monde, il n'y a pas de satisfaction. Jésus, oui, Jésus seul satisfait. Oh, il y a une joie, écoutez-moi bien, chers amis, il y a une joie merveilleuse, profonde, dans l'adoration, quelque chose d'indescriptible, mais il faut le faire de tout son cœur. Savez-vous ce que veut dire le mot adorer? Le mot adorer, j'ai relevé ici, la racine du mot hébreu dans l'Ancien Testament veut dire « se courber jusqu'à terre ». Se courber jusqu'à terre. Et le mot « adorer » veut donc dire « c'est l'âme qui se prosterne devant Dieu dans l'amour le plus ardent et la contemplation la plus profonde de Dieu lui-même ». Voilà la véritable signification de l'adoration. Se courber devant Dieu dans l'amour le plus ardent et la contemplation la plus profonde de Dieu lui-même. Il y a d'abondantes joies devant sa face, des délices éternels. Alléluia. Alléluia. Et un chrétien qui adore sera un chrétien joyeux. Je ne veux pas dire que vous n'aurez pas de difficultés, je ne veux pas dire que vous n'aurez pas d'épreuves, mais dans la souffrance, dans l'épreuve, cette joie qui est tout à fait indépendante des circonstances, des événements et des problèmes de ce monde. Chers amis, la situation dans ce monde ira en s'empirant. Il n'y a point d'espoir pour le monde. En dehors de Jésus-Christ, ne vous faites pas d'illusions. Ne dites pas, oh, J'espère que la situation ira mieux dans tel ou tel pays pour qu'on soit un peu plus calme. Qu'on vive un peu plus dans la paix. Si tu attends que la situation devienne meilleure dans le monde pour enfin jouir d'une paix, alors mon ami, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ta paix n'est pas en Dieu. Alors ta paix est dans le monde et l'espoir de ce monde. Mais dans ce monde, il n'y a pas d'espoir. Notre seule joie doit être en Jésus et en Jésus seul. Amen. Je vous donne ma joie, dit Jésus. Ma joie, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Alléluia. Oui, adore Dieu. Adore Dieu et tu n'auras pas besoin d'autre chose. Amen. Même si le monde, même si ton mari, même si ta femme, même si tes enfants, même si les autres ne peuvent pas te donner ce dont tu as besoin, Dieu te le donnera. Alléluia. Dieu te le donnera, mais adore Dieu. Qu'il soit tout pour toi. Voilà les disciples à la Pentecôte. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Voyez-vous, avant de prêcher la parole, ils avaient reçu des langues qui exaltaient la beauté de Dieu. C'est cela dans l'adoration. Nous décrivons les merveilles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous décrivons ces merveilles, sa beauté, sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde, sa présence, sa puissance, sa protection. Oh, dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Alléluia. Alléluia. Adore, adore. Trois résultats bénis dans l'adoration. Premièrement, Dieu est satisfait. Et quand Dieu est satisfait, alors tu seras satisfait toi-même. Et lorsque tu es satisfait, voilà le troisième résultat, tu peux maintenant satisfaire les autres. C'est pourquoi, après, Pierre s'est levé et il a commencé à prêcher la parole. Pierre, rempli du Saint-Esprit, commence à prêcher la parole de Dieu. Mais c'était un cœur débordant d'amour, d'adoration. Alléluia. Je ne sais pas, il était rempli du Saint-Esprit, rempli de joie. On disait qu'ils étaient ivres. Je ne sais pas si vous pensez que je suis un peu ivre, mais enfin, j'en sais rien. Mais ce serait un bon signe, dans le fond. Ce serait un bon signe. Mais le voilà prêchant la parole de Dieu. Et quel effet miraculeux sur les autres, n'est-ce pas vrai? Pourquoi? Parce qu'il prêchait au travers d'un cœur satisfait. Et seul, et je termine par cela, seul un cœur satisfait lui-même pourra satisfaire les autres. Et laissez-moi vous dire, ce ne sont pas vos paroles qui vont convaincre les autres. C'est ce que vous êtes vous-même. Votre communion avec Dieu. On le voit lorsque quelqu'un est satisfait lui-même, n'est-ce pas vrai? Mais il n'y a rien de plus tragique que de prêcher sur l'amour avec un cœur plein de haine. Il n'y a rien de tragique de parler sur la paix avec un cœur plein d'inquiétude. Il n'y a rien de plus tragique de prêcher un message bouillant avec un cœur froid. Non, ce ne sont pas tes paroles qui influencent les autres. C'est l'esprit dans lequel tu dis ces paroles. Amen. Oh, que l'on comprenne cela. Combien de fois nous disons, « Ah, mais je lui ai dit toute la vérité. » Ah oui, mais comment tu l'as dit, la vérité? Comment tu l'as dit? La parole de Dieu dit de prêcher la vérité dans la charité. La vérité dans la charité. Mais il y en a qui ont été un peu trop loin. Ils prêchent la charité sans la vérité. Alors ça ne va pas du tout. La parole de Dieu, c'est pour ça qu'ils sont déséquilibrés. C'est pour ça qu'ils tombent toujours. Quelqu'un qui est déséquilibré, il tombe toujours. Et quelqu'un qui prêche que la charité sans la vérité, c'est un déséquilibre. Cette personne n'ira pas loin. Observez cette personne, elle n'ira pas loin. Même si c'est une personne mielleuse, qui a des paroles d'amour, mais ces paroles d'amour ne pourront même pas satisfaire et son cœur et les autres. N'est-ce pas vrai? L'homme n'a pas besoin d'amour, il a besoin de vérité aussi. Amen. Et plus que jamais, l'homme aujourd'hui a besoin de savoir la vérité. Ils doivent abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, nous dit l'Épître aux Thessaloniciens. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je termine par là. Gloire au Seigneur. Amen. Adorez, adorons. Pensez à la petite mémé qui est venue voir Abraham Lincoln. Cessez de venir. Oui, ou alors, allez toujours avec vos requêtes. Vous êtes équilibré, ne tombez pas pendant l'autre extrême, mais venez plus souvent avec votre petit sac devant le Seigneur. Amen. Votre petit sac et sortez le paquet de l'adoration. Amen. Sortez le beau paquet ou alors la coupe d'or. Sortez la coupe d'or qui est la prière des saints. Sortez cette coupe et adorez le Seigneur.
Alléluia. Et laissez-moi vous dire une chose, si vous touchez le cœur du Seigneur, vous avez touché la personne la plus extraordinaire du monde. Et si quelqu'un arrive à toucher le cœur de Dieu, je vous assure, vous êtes la personne la plus bénie de ce monde. Amen. Si vous arrivez à toucher le cœur du roi des rois, mais tout est à vous. Alléluia. Amen. Mais vous pouvez toucher sa main sans toucher son cœur. Savez-vous, vous pouvez toucher la main de Dieu. Dieu peut vous bénir, mais sans que vous touchiez son cœur. Le point important est de toucher son cœur. Quand vous touchez son cœur, vous touchez sa main. Mais quand vous touchez seulement sa main, vous ne touchez pas son cœur. Pas forcément. Touchez son cœur et vous touchez les deux mains en même temps. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que son nom soit béni. Chers amis, Pentecôte est là. L'esprit de Pentecôte est un esprit d'adoration. Voilà pourquoi dans nos conventions, chers amis, nous ne perdons pas de temps à discuter et à faire beaucoup de choses. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Nous voulons passer du temps dans l'adoration. C'est votre premier ministère. Ne dites jamais que vous n'avez pas de ministère. C'est un mensonge. Tout le monde a un ministère aussi. Un ministère devant Dieu. Adorez Dieu. Adorez. Tu as un ministère. Sois fidèle à ce ministère. Et tu verras que Dieu te donnera autre chose aussi. Dieu te donnera autre chose. Sois fidèle. Sois fidèle. Adore Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Levons-nous. Levons-nous et adorons le Seigneur quelques instants. Jésus, tu es le plus beau nom. Amen. Jésus, levons nos bras et adorons le Seigneur. Jésus. Jésus. Alléluia.
Merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous.
Alléluia.
De joie, parole de Dieu.
Encore une fois, pour Jésus.